Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposées par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.
Amis auditeurs, bonjour, heureux de nous retrouver dans notre émission Eschatologie et prophétie. Heureux de nous retrouver aujourd'hui, en ce mois de novembre, nous allons suivre cet enseignement qui va nous être proposé par le Père Louis-Marie de Blinière, de la communauté Saint-Vincent-Ferrier, sur les fins dernières. Donc, nous allons entendre cet enseignement sur la résurrection, sur le jugement particulier et sur le purgatoire.
Aujourd'hui, nous abordons la résurrection, d'abord le fait de la résurrection et la convenance. La résurrection des hommes au dernier jour est un article capital de notre foi chrétienne. Il est professé, affirmé dans les plus anciennes formules du credo, comme celle que l'on appelle le symbole des apôtres, qui dit « Je crois en la résurrection de la chair ». La chair désigne ici l'homme tout entier, dans sa condition de faiblesse et de mortalité. Saint Paul, vous le savez, affirme avec énergie dans la première épître aux Corinthiens, « S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et vide aussi est notre foi. » Mais non, continue saint Paul, « le Christ est bien ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. » Ce mystère de la résurrection avait été révélé progressivement dans l'Ancien Testament, d'abord dans le livre de Daniel. « Un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. » Ensuite, dans le livre du saint homme Job, « Je sais, moi, affirme-t-il, que mon défenseur avec un grand D, mon avocat, est vivant, que lui, le dernier, il se lèvera de la poussière. Après mon éveil, il me dressera près de lui, et dans ma chair, je verrai Dieu. » Ce mystère annoncé dans l'Ancien Testament est clairement affirmé par Jésus-Christ lui-même, dans le chapitre 5 de saint Jean, notamment. « Elle vient, dit-il, l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de l'homme, et ils sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. » Vous le voyez, Jésus, comme le prophète Daniel, souligne bien la différence entre la résurrection des élus et celle des damnés. Pourquoi donc les hommes ressusciteront-ils? Cherchons des raisons de convenance qui expliquent, qui éclairent au moins ce mystère. Je veux en donner trois. La première raison est fondamentale, elle est un petit peu philosophique, mais vous pourrez la comprendre. Elle tient à la nature même de l'homme, qui n'est pas un corps et une âme séparés, qui est un corps et une âme intimement unis. Les âmes des hommes, nous dit saint Thomas d'Aquin, sont immortelles. Elles subsistent donc après les corps. Un des pères vous en a parlé. Même quand elles ont été séparées du corps. Mais l'âme, naturellement, est unie au corps. En son essence, par sa nature même, elle est en effet ce qui donne la forme, l'être, l'unité au corps. Vous voyez, l'unité, c'est quelque chose de très très profond. Il est donc contraire à la nature même de l'âme d'être sans son corps. Et ajoute saint Thomas profondément, ce qui est contraire à la nature ne peut pas durer toujours. En tant que l'homme est un animal, là c'est moi qui reprends le texte, il doit certes mourir comme tous les animaux. Mais pour l'homme, il faut tenir compte de la question du péché originel. Avant le péché originel, le fait d'être incorruptible était naturel d'une certaine manière en tant que Dieu avait proportionné le corps de l'homme à l'âme immortelle. Il avait fait le corps de telle façon qu'il convienne à une âme qui ne va pas mourir. Mais après le péché, une fois que l'âme, contre sa propre nature, s'est détournée de Dieu par ce péché, cette disposition que Dieu avait donnée au corps pour qu'il corresponde de manière harmonieuse à l'âme a été retirée. La mort est la conséquence du péché. L'âme se détourne de Dieu, le corps se détourne de l'âme. La mort est donc, dit saint Thomas, comme une catastrophe qui n'était pas prévue à l'origine, une catastrophe qui arrive à l'homme à cause du péché. Or, cette catastrophe, c'est l'essentiel de la bonne nouvelle, cette catastrophe est supprimée par le Christ parce que, par le mérite de sa passion, il a détruit la mort en mourant. Deuxième raison qui concerne maintenant tous les hommes, c'est la justice de Dieu. Dieu, nous dit le catéchisme du Concile de Trente, a établi des châtiments pour les méchants et des récompenses pour les bons. Mais vous le savez, c'est ce que dit le catéchisme, et nous constatons combien d'hommes quittent cette vie, les uns sans avoir subi les peines dues à leur péché, et les autres sans avoir reçu en aucune manière les récompenses méritées par leur vertu. C'est une expérience quotidienne. Il est donc de toute nécessité, nous dit le catéchisme, que les âmes soient de nouveau unies à leur corps, afin que ces corps, qui ont servi d'instrument pour le bien comme pour le mal, le corps de l'assassin ou le corps du bienfaiteur, que ces corps partagent avec les âmes les récompenses et les punitions méritées. Saint Paul dit dans la première aux Corinthiens, « Si c'est seulement pour cette vie que nous espérons en Jésus-Christ, nous sommes bien les plus malheureux des hommes. » Et saint Thomas d'Aquin explicite ces paroles en disant « On doit les entendre non seulement de ce qui concerne les misères de l'âme, puisque l'homme est immortel. Donc, quand bien même les corps ne ressusciteraient pas, l'âme pourrait cependant posséder le bonheur dans la vie future. C'est ce que déjà les anciens croyaient. Il faut donc, dit saint Thomas, rapporter ces paroles à l'homme tout entier. Si en effet le corps ne doit pas recevoir sa récompense pour les peines qu'il endure, pour le bien, il est impossible d'échapper à cette conclusion que ceux qui souffrent dans cette vie toutes sortes d'afflictions et de maux pour la justice, bien entendu, comme les apôtres, sont à coup sûr les plus malheureux de tous les hommes. Il y a une troisième raison qui concerne spécialement les élus, parce que le bonheur, la béatitude, requièrent la partie corporelle de l'homme. C'est un point sur lequel le réaliste catholique insiste beaucoup. À la résurrection, le corps des élus va entrer, selon son mode, selon sa façon corporelle, en participation au bonheur que l'âme du bienheureux possède déjà. Le désir naturel de l'homme, nous dit saint Thomas d'Aquin, c'est de tendre au bonheur, nous l'expérimentons tous. Or, le bonheur, c'est la perfection ultime de l'être qui est heureux. S'il manque quelque chose, on n'est pas heureux. Mais l'âme séparée du corps est d'une certaine façon imparfaite, comme l'est toute partie hors de son tout. Les anciens philosophes grecs le sentaient, qui mettaient les âmes comme flottant dans les Champs-Élysées, comme imparfaites. L'âme, continue saint Thomas, est en effet naturellement une partie de la nature humaine, avec son corps. Oui, la résurrection, mes chers amis, est une vérité très consolante, qui met en grande lumière la dignité du corps humain. Et je vais vous citer Romano Guardini, un théologien allemand, maître spirituel de Joseph Ratzinger. Au début de l'âge moderne, on a érigé en dogme cette idée fausse que le christianisme est l'ennemi du corps. Mais ce mot a été pris là au sens de l'antiquité païenne, voire de la Renaissance ou de notre époque moderne. Il s'agit d'un corps au fond détaché de Dieu et idolâtré pour lui-même. En réalité, dit Guardini, le christianisme seul a osé placer le corps dans les profondeurs les plus cachées de Dieu, puisque le corps du Christ ressuscité est en Dieu. Et pour terminer cette instruction, une citation de Joseph Ratzinger, Benoît XVI, « La foi en la résurrection de Jésus est une confession de l'existence réelle de Dieu et une confession de son acte créateur, du oui inconditionnel par lequel Dieu se situe en face de la création, un oui à la matière même. La parole de Dieu pénètre véritablement jusqu'aux profondeurs du corps. » Nous verrons les caractéristiques de la résurrection. D'abord, il faut affirmer, c'est très important, que tous ressusciteront, tous les hommes. La résurrection aura lieu au moment du retour du Christ. La question de savoir si les hommes de la génération qui verra ce retour en gloire du Christ mourront ou non est disputée entre les théologiens, à partir du sens que l'on donne au texte un peu mystérieux de saint Paul. La plupart des pères orientaux, grecs, ainsi que Tertullien et saint Jérôme, tiennent pour la négative. Ils pensent que les hommes vivants au retour du Christ ne mourront pas. Saint Thomas à la suite de la plupart des pères latins et aussi de saint Cyrille d'Alexandrie, soutient la réponse affirmative, même ces hommes-là, de la fin des temps, mourront. Les vivants, dans la première hypothèse, où on ne meurt pas, seront transformés en leur corps éternel, un peu comme la Sainte Vierge à l'Assomption. Et pour les morts, ce sera vraiment leur propre corps qu'ils récupéreront. Tous ressusciteront, nous disent les conciles de Latran IV et de Lyon II, avec le propre corps qu'ils ont maintenant. C'est un grand mystère. Les ressuscités entreront alors dans une vie immortelle, incorruptible, conforme à leur mérite, bien différente pour les élus et pour les damnés. Le chapitre 5 de Saint Jean rapporte cette phrase de Jésus « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. » Et on peut ajouter « Tous les hommes, sans exception, y compris les petits-enfants morts sans baptême, ressusciteront par l'influx de la résurrection du Christ, car c'est elle qui déclenche la résurrection des autres hommes. C'est l'instrument dont la divinité de Jésus se sert pour ressusciter tous ceux qui ont la nature humaine qu'il a prise lui-même. Il dit au chapitre 11 de Saint Jean, « Je suis la résurrection et la vie. » Maintenant, une autre question, à quel moment aura lieu la résurrection de tous les hommes? Eh bien, elle aura lieu, nous l'avons déjà évoqué, à la fin des temps, au dernier jour, lors du retour glorieux du Christ, que l'on appelle la parousie, dont nous dirons un mot dans la prochaine instruction. Je vais vous lire une partie d'un poème admirable de Charles Péguy, dans son poème « Ève », évoquant de façon allégorique l'instant de la résurrection où les hommes sont en marche vers le Christ et le jugement. « Quand tout s'éclairera des flammes de mémoire, quand tout homme sera comme un grand spectateur, quand la création, devant le Créateur, sera comme un linceul au rayon de l'armoire, quand l'homme s'en ira dans la nuit étoilée, encore tout est perdu de ce remembrement, quand l'homme s'en ira dans la nuit dévoilée, encore tout confondu de ce transfèrement. Quand ils reconnaîtront, écoutez ça, c'est très beau, quand ils reconnaîtront les jours de leur détresse, plus profonds et plus beaux que les jours de bonheur, quand ils retrouveront les jours de leur honneur, plus durs et plus aimés que les jours de liesse, quand ils s'avanceront dans le dernier matin vers le dernier prétoire et le dernier monarque. Maintenant, nous allons dire ce qu'on peut évoquer rapidement sur le corps des élus. Les élus verront leur propre corps transfiguré et glorifié par l'union vitale à l'âme bienheureuse. Le dogme de la résurrection des morts doit donc nous aider, dans l'espérance de notre salut, à porter ici-bas, dans la souffrance, la maladie, le poids de ce corps de mort dont saint Paul demandait, dans l'Épître aux Romains, à être libéré. Le corps des ressuscités sera vraiment un corps matériel et sensible, mais libéré, une matière d'un peu d'une autre nature, d'un autre style que celle que nous voyons dans l'époque actuelle, mais libéré de tout ce qui peut constituer pour nous ici-bas une peine. C'est ce qu'évoque saint Paul dans un passage fameux de la première aux Corinthiens, chapitre 15e. « Semé dans la corruption, il ressuscite incorruptible. Semé dans l'ignominie, il ressuscite dans la gloire. Semé dans la faiblesse, il ressuscite dans la force. Semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. » Les corps glorieux seront dotés de ces propriétés merveilleuses que je viens d'évoquer, qui leur permettront de se déplacer partout en un instant sans le moindre effort. C'est ce qu'on appelle l'agilité. Le corps glorieux aussi pourra passer au travers de tous les obstacles matériels, c'est la subtilité. En outre, une mystérieuse et délicieuse lumière se dégagera du corps glorifié et l'habillera en quelque manière, c'est la luminosité, qui est représentée dans la mandorle des dessins des Byzantins. Saint Thomas l'explique en commentant le texte de saint Paul que nous venons de citer. Il y a l'âme qui jouit de la vision de Dieu, et comme elle est inondée d'une lumière spirituelle, de même par rejaillissement de l'âme sur le corps, celui-ci, à sa manière, sera revêtu d'une lumière de gloire. Notre corps, qui est maintenant opaque, sera alors lumineux. Le corps, par ailleurs, sera obéissant. Il obéira totalement à l'empire de l'esprit. Les corps des bienheureux seront donc doués d'agilité et se trouveront où l'âme souhaite qu'ils soient. Le corps amené par l'âme à son point de perfection, c'est ça qui est très beau, vous voyez. Le corps amené par l'âme à son point de perfection et proportionnellement à l'âme sera immunisé contre le mal. Il n'y aura dans les corps ressuscités ni corruption, ni difformité, ni défaut quelconque. Ils ne pourront souffrir rien qui leur soit dommageable. Ils seront impassibles. La puissance de Dieu, dit saint Thomas, fera que les corps glorieux pourront se compénétrer avec d'autres corps, ce qui est montré par anticipation dans le corps du Christ. Lorsqu'il entra dans le lieu où se trouvaient les disciples, toutes les portes étant closes. Les anciens pères de l'Église, spécialement les orientaux, se sont plu à évoquer les saints comme un cortège d'étoiles de diverses brillances, comme disent les astronomes. Ces étoiles entourent la Lune, qui symbolise la Sainte Vierge, la Vierge Immaculée, et elles reflètent toute la lumière du soleil, le soleil de justice, qui est le Christ. Autre est la clarté du soleil, dit saint Paul, dans le chapitre 15, 1 aux Corinthiens. Autre la clarté du soleil, autre celle de la lune, autre celle des étoiles. Une étoile diffère de l'autre en clarté, ainsi en sera-t-il dans la résurrection des morts. Donc, nulle monotonie, une magnifique variété. Quelle consolation, mes chers amis, de penser à ces corps vivants, animés, lumineux, qui auront ici-bas servi Dieu dans l'obscurité et seront alors des foyers de lumière, spécialement quand nous accompagnons les mourants qui ont servi le Christ durant leur vie. On peut s'en faire une idée par l'enthousiasme des descriptions des voyants de la Sainte Vierge. Si vous lisez les récits de la Salette, de Fatima et de Pomain, on voit les voyants enthousiasmés par la beauté de la Vierge, qui était belle dans son plus beau, disent certains, et radalouse, dit le ciel était en lumière. Les corps des bienheureux seront immortels et incorruptibles. Donc, voyez, on est au-delà de la statuaire grecque avec cette perfection qui est comprise par une certaine tristesse à cause de la mort. Après l'acmé, après le sommet de l'artiste, il y a le fait que l'athlète va mourir. Ils n'auront plus besoin de nourriture, de boisson, ni même d'exercer la génération, car le nombre des élus sera complet. Et ces corps, mes chers amis, seront dans la pleine intégrité de la nature humaine, avec tous ses organes, et ils seront pleinement vivants. Ce ne sont pas des statues immobiles. C'est ainsi que Pie XII, dans l'encyclique Auriétis Aquas, belle encyclique sur le Sacré-Cœur, dit à propos du cœur de Jésus ressuscité, son cœur très saint n'a cessé de battre d'un mouvement paisible et imperturbable. Mes chers amis, dans cette dernière instruction, nous allons parler du fait du jugement général. Outre le jugement particulier de chacun à l'instant de la mort, il y a un jugement de tous les hommes lors du retour de Christ. Il reviendra dans la gloire juger les vivants et les morts, chantons-nous dans le Credo. N'oublions pas que cette doctrine des fins dernières que nous avons exposée durant ce mois a d'abord été développée en relation au Christ, dans une perspective christologique. Si les divers symboles de la foi, les credos, font intervenir ce jugement, c'est toujours pour souligner qu'il est une fonction du Fils de Dieu. Le terme « il reviendra », qui exprime la parousie ou le retour du Christ, est une allusion manifeste à son premier avènement lorsqu'il a pris chair de la Vierge Marie. Mais ce retour se fera, on insiste, dans la gloire, et il doit être le commencement d'un règne qui n'a pas de fin, comme nous le disons dans le Credo. Dans la Sainte Messe, après la consécration, les liturgies byzantines et coptes font mémoire, non seulement comme nous les Romains, de la résurrection après 3 jours et de l'ascension aux cieux, mais elles font mémoire aussi de la cession à la droite du Père et du second et glorieux avènement. C'est magnifique. Le jugement public et universel est annoncé par les prophètes. Daniel au chapitre 7, Joël au chapitre 3 et Malachie au chapitre 3 également. Il est aussi prédit par notre Seigneur lui-même dans le grand chapitre 25e de saint Matthieu. Pourquoi ce jugement? Quelles sont les raisons de convenance qui expliquent que tous les hommes, déjà jugés individuellement à la mort, seront jugés tous ensemble à la fin des temps? Il convient, à plusieurs titres, D'abord, les conséquences sociales du bien et du mal que chacun aura fait et s'arrêtent seulement, en fait, avec l'histoire humaine. Alors, elles seront reconnues pour tous et elles recevront leur juste rétribution. Ce qu'ont fait les mauvais, les pervers et ce qu'ont fait les saints est bien différent et leurs conséquences pour l'histoire du monde aussi. D'autre part, il faut que soit rétablie la vérité sur chaque homme dans ses rapports avec les autres, que soit réparé l'honneur bafoué et la vertu méconnue des justes, et que soient démasquées les réputations abusives et les vices insoupçonnés des mauvais. L'aspiration à la justice, en ce sens, soit vraiment réalisée. Il faut que publiquement aussi, alors qu'ici-bas il y a tant d'injustices, des récompenses soient attribuées aux justes et des châtiments aux mauvais. Aussi, selon le corps avec lequel ils ont fait le bien ou le mal à la vue de leurs semblables. Et enfin, autre raison assez touchante, il faut que soit rendue manifeste à tous la sagesse de la providence divine. En effet, cette providence ordonnait les souffrances des bons à leur progrès par la charité, et elle tolérait seulement la prospérité des méchants pour qu'ils se convertissent et pour qu'ils exercent les bons. D'ailleurs, nous dit le catéchisme du Concile de Trente, il était souverainement utile de proposer ce jugement de Dieu aux bons et aux méchants, pour consoler les uns, les bons, et effrayer les autres, les méchants. Et aussi pour empêcher les bons de se décourager en leur faisant connaître la justice de Dieu qui éclatera un jour. Et pour détourner les méchants du mal par la crainte des éternels supplices. Maintenant, le temps du jugement général. Quand est-ce qu'aura lieu ce jugement ? C'est lors du second avènement du Christ. Cet avènement est appelé parousie, parousia, d'un texte d'un mot grec qui désigne, dans le langage des Romains d'époque de Jésus, une visite impériale qu'il faut soigneusement préparer en aménageant tous les alentours. Ce retour, cette parousie, aura lieu à la fin des temps. Ce sera la conclusion de l'histoire humaine. Alors, quand est-ce que ce sera ? Ça intrigue beaucoup les gens et ça excite souvent une curiosité désordonnée. Mais Jésus a dit, quant à ce jour-là et à cette heure-là, personne ne sait quand ils arriveront, pas même les anges des cieux, pas même le Fils, c'est-à-dire ça lui a pas été donné pour être communiqué, personne absolument, si ce n'est le Père seul. Il importe de souligner, contre des visions catastrophistes récurrentes au cours des siècles, que ce jugement dépend de la liberté transcendante de Dieu et non pas de nécessité cosmique naturelle, comme serait une sorte de Big Crunch succédant au Big Bang ou un réchauffement climatique excessif, ou bien de processus historiques qui peuvent jouer un rôle mais qui sont des instruments. Il n'y a pas d'aboutissement nécessaire d'un prétendu sens de l'histoire qui conduirait au Christ point oméga, comme l'ont rêvé certains théologiens qui manquaient de rigueur. Il n'y a pas de terme inéluctable d'une évolution qui serait le jugement du Christ. Le royaume de Dieu, souligne le catéchisme de l'Église catholique, s'accomplira non pas par un triomphe historique de l'Église, selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal qui fera descendre du ciel son épouse. Quels sont les signes avant-coureurs de ce jugement général ? Dans son discours eschatologique, chapitre 24 de saint Matthieu, Jésus a fait un parallèle assez impressionnant entre la destruction et la ruine de Jérusalem et les prémices du jugement dernier, ce qui fait que son discours est assez difficile à décoder, mais il donne matière à méditer. Cela a amené la tradition chrétienne, sans nullement prétendre deviner la date du jugement. Contrairement, il y a beaucoup de Madame Soleil à l'intérieur des catholiques prétendument pieux, à considérer donc l'existence de certains signes avant-coureurs de la parousie. On énumère classiquement trois signes. La prédiction de l'évangile moralement réalisée dans le monde entier, chapitre 24 de saint Matthieu. L'entrée dans l'église de la plénitude des juifs, chapitre 11 de l'épître aux Romains. Et des persécutions culminant dans celle de l'antéchrist et entraînant l'apostasie de beaucoup, deuxième épître de saint Paul aux Thessaloniciens. Alors je vais vous lire un passage très impressionnant du catéchisme de l'église catholique. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera ce que saint Paul appelle le mystère d'iniquité, attention, sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême, continue le catéchisme, est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Les pères de l'Église font aussi état de catastrophes dans l'ordre du cosmos, du monde, de l'univers. Ces bouleversements peuvent être réels ou bien simplement symboliser l'irruption de Dieu dans l'histoire comme la théophanie finale à l'image des théophanies de l'Ancien Testament. Saint Pierre, par exemple, évoque une conflagration générale où l'ancien monde sera purifié et rénové par le feu dans la deuxième épître de Saint Pierre. Mais attention, contre les tentations sans cesse renaissantes de messianisme temporel, l'Église réprouve toute forme, même mitigée, de millénarisme. Cette doctrine qui affirme un millénaire de règne temporel du Messie, du Christ, ou une très longue période de triomphe du bien sur la terre. Prenez garde à vous-même, dit-on dans le chapitre 21 de Saint-Luc, de peur que ces jours-là ne fondent sur vous à l'improviste. Le livre de l'Apocalypse, mes chers amis, doit nous conduire, non pas à des supputations et des calculs, mais à une méditation en profondeur de ce mystère, comme le souligne de façon saisissante Romano Guardini, sur lequel je terminerai par une citation d'un de ses livres. L'Apocalypse, dit ce maître spirituel de Ratzinger, l'Apocalypse apprend ce que devient le temps quand vient l'éternité. Pour le voyant Saint Jean, tout est toujours sous une pression formidable, toutes les frontières sont en mouvement entre l'éternité et le temps. Rien n'est garanti. La réalité terrible entre par tous les pores, elle jaillit des profondeurs, elle se précipite d'en haut. Il ne s'agit pas, mes chers amis, de savoir que telle ou telle chose arriveront à telle ou telle époque, de telle ou telle manière. Tout cela, dit Guardini, est futile. Ce qui importe seul, c'est ce que deviendra notre existence quand l'éternité se mettra en mouvement. Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse.
Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposées par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.